Personnellement, moi j'avais. Ça fait déjà 20 ans que je suis au travail du Saint-Siège. Avant, jusqu'à 1998, jusqu'à 2006, je travaillais à la Secrétaire d'État, deuxième section, Relations pour les États. Puis je suis parti 3 ans en Guinée, comme secrétaire de l'Annonciature apostolique là-bas. Et quand je suis revenu, après ce temps de travail dans un pays à 90% habité par des musulmans, le cardinal Torrent, qui me connaissait, a dit « Viens travailler avec moi ». J'étais bien content de le faire. Donc, moi voici. D'accord. Voilà.
Merci. Nous commençons notre voyage d'études à Rome par vous, par le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Nous-mêmes étant un institut de formation sur les religions et sur la laïcité, et vous avez ici donc des personnes qui se forment pendant un an sur ces matières. Et il nous paraissait important de démarrer le voyage d'études par les religieux, justement, puisque c'est une dimension importante du Vatican depuis Vatican II, en particulier le Nostra Aetate, qui fonde, je crois, ce conseil pontifical en 1964.
Oui. Et puis maintenant, en effet, oui. On a même un temps un peu court, parce que, comme je le disais à Xavier, à 11h, il y a la délégation des évêques du Canada qui viennent ici. Donc, il faut bien profiter de ce temps pour vous donner une idée du travail que nous faisons cela. Donc, c'était en 1965 que le pape Paul VI, qui est maintenant saint, a voulu créer ce secrétariat pour les non-chrétiens. Et c'est lui qui a beaucoup poussé pour que le Vatican II vraiment aboutisse à produire cette déclaration sur le dialogue interreligieux. Finalement, les deux fruits qui sont un peu complémentaires entre eux, c'est Nostra Aetate pour le dialogue interreligieux, et c'est le document sur la liberté de religion. Aujourd'hui même, ça fait 50 ans, n'est-ce pas ? J'ai écouté Radio France Internationale ce matin qui me disait qu'aujourd'hui à Paris, il va y avoir une célébration pour les 50 ans de la Déclaration des droits de l'homme. Et donc, la liberté des religions, à l'article 18, figure comme l'un des points fondamentaux de ce travail. Ce sont les deux produits les plus importants qui ont donné plus de fruits de cette réunion des évêques du monde entier. Vous savez qu'au début, les évêques ne visait qu'à une déclaration qui devait concerner que les juifs, à cause de l'Holocauste et de tout ce qu'il y avait. Mais pendant le concile, c'était la première fois dans l'histoire qu'il y avait des évêques d'Asie, des évêques d'Afrique, et donc même du Proche-Orient, qui ont dit, écoutez, là, ça ne peut pas concerner que les juifs. Il faut vraiment élargir le texte aux relations avec les autres, les croyants des autres religions, musulmans, bouddhistes, hindouistes, etc. Donc ils ont négocié plusieurs versions. Finalement, ils ont sorti ce petit texte de juste 5 paragraphes qui concerne les relations de l'Église avec les religions. Et ce qui est important, c'est l'affirmation fondamentale que l'Église ne néglige pas, qu'elle apprécie tout ce qu'il y a de juste et de saint dans les autres religions. À partir de cela, ça a été vraiment un fleuve. Le rabbin de Rome, lui, il dit, c'est comme si on avait cassé what is the French for dam? Une digue. Comme si on avait cassé une digue. Voilà, une digue. L'eau a commencé à courir partout. Et vraiment, c'est l'image, je trouve, la plus efficace. Parce qu'on voit que ce n'est pas un investissement à sens unique. Ce que l'Église a commencé, ça a produit des fruits, des engagements dans le monde entier. Donc, tu vois que les musulmans nous cherchent, les bouddhistes nous cherchent, les hindouistes, les jainistes nous cherchent. Et pour un enrichissement réciproque. Et donc il y a plusieurs plateformes de travail. Ici, vous n'avez qu'un secrétariat permanent le dialogue interreligieux concerne les églises locales, donc ce sont les évêques au niveau national et au niveau diocésain qui ont des commissions pour le dialogue interreligieux. Tous les 3 ans, en moyenne, il y a les membres et les consulteurs du monde entier qui viennent ici pour une assemblée plénière. Et on fait un peu le point de la situation. On aborde des sujets. La dernière fois, ça a été le rôle de la femme dans l'éducation à la fraternité universelle. Vous voyez, donc, ce n'est pas des trucs comme ça. Hein. C'est des sujets sérieux qu'on aborde. Et aussi, on est très enrichi par les rapports que nous donnent les membres et les consulteurs du monde entier. Parce que vous savez mieux que moi que la situation n'est pas si facile partout dans le monde. Si vous pensez à ce qui se passe en Asie ou au Pakistan, juste pour donner une idée, mais dans le monde entier, c'est un peu compliqué. Donc, c'est un peu ça. Et il y a plusieurs plateformes, parce que comme vous le savez, on ne peut pas dialoguer avec chiites et sunnites en même temps, à la fois. Il y a sûrement des rencontres où on les a ensemble. Mais on a des plateformes avec l'Iran, avec l'Irak, avec l'Algérie. Demain, moi-même, je vais partir au Maroc pour rencontrer encore des institutions là-bas. Et la même chose, c'est pour les autres religions, les différents types de bouddhistes dans les différents pays. Parce qu'une chose, c'est le Japon, autre chose, c'est la Corée, ou Hong Kong, ou Taïwan, les Philippines. Vous voyez, c'est un travail immense. Nous, ici, on n'est pas nombreux. Je ne sais pas comment on arrive à faire le travail. On a un prêtre de l'Indonésie qui s'occupe de l'islam en Asie. Puis, le sous-secrétaire Monseigneur Indunil, il est du Sri Lanka. Et lui, il est chargé un peu du bouddhisme, des religions orientales, surtout en Asie. Puis, on a un prêtre autrichien, qui est un ancien ambassadeur de l'Autriche, Monseigneur Michael Benninger. Et lui, il a un peu servi l'islam en Europe. Et puis, il y a une dame qui s'occupe des sectes et des mouvements religieux. Et puis notre fleur, c'est Monseigneur Akashé, qui est du diocèse de Jérusalem, donc du patriarcat de Jérusalem, qui est chargé un peu, il est le chef du bureau pour l'islam. Donc c'est celui qui va un peu partout dans le monde. Monseigneur Ayuso lui-même, il a été 20 ans missionnaire au Soudan. Il a été professeur et président du PISAI. Je crois que vous allez aussi au PISAI, n'est-ce pas? C'est l'Institut Pontifical pour les études islamiques qui se trouve ici à Rome. Donc, on a des gens qui sont très compétents. Moi, je suis très heureux parce que j'apprends d'eux. Et on a un prêtre, un collègue qui est du Kerala. Donc, il est un peu chargé pour l'hindouisme, le jaïnisme. Vous voyez, c'est avec ça qu'on travaille. Vraiment, c'est un miracle.
Personnes.
Oui, finalement, qui sont directement engagées dans le travail de relation. Parce que le principe, c'est que le dialogue se fait au niveau local. Donc, ce sont les évêques et les collaborateurs des évêques qui doivent être engagés. Nous, on fait tout simplement un travail de relation ici. Et ou bien d'impulsion. Parce que le cas de l'Italie, il n'y avait pas de relation entre l'Église italienne et les bouddhistes, les hindouistes, les jaïnistes. Donc, mes collègues ont parlé avec le responsable national de la conférence épiscopale italienne. Ils leur ont présenté les responsables des communautés hindouistes, jaïnistes, bouddhistes qui se trouvent en Italie. Et on a fait une première rencontre, une deuxième rencontre. Maintenant, ils continuent tout seuls. C'est sûr, à Rome, on a une chance parce qu'on a toutes ces universités pontificales. Donc, figurez-vous que la Grégorienne, l'université qui se trouve au centre, à côté de Piazza Venezia, ils ont un centre pour le dialogue interreligieux. Donc, on a même un endroit avec des gens spécifiques qui peuvent nous aider. On a des professeurs qui sont compétents pour aborder certains sujets. Donc Rome, sûrement on a de la chance. Parce qu'il ne faut pas durer pour trouver des personnes pour aborder toutes sortes de sujets spécifiques. C'est un peu comme ça qu'on travaille. Et donc à vous, si vous avez des questions, sûrement vous en avez.
Peut-être présenter les grandes satisfactions que vous avez.
Oui.
Ça va avec le reste.
Vous
voyez ce qui est difficile,
qu'est-ce
qui marche bien,
oui,
en synthèse, et après peut-être
c'est même pas bien. Bon, ici, dans notre expérience, c'est que il y a certains dangers. Le premier danger que je crois vous-même vous rencontrez, c'est celui du syncrétisme. Et qui concerne surtout les convertis. Nous, on a l'expérience. Il y a le respect pour toutes les personnes, c'est sûr. Certains chefs d'organisation qui sont convertis à l'islam, ils ont une confusion mentale. Ils ne se rendent même pas compte. Ils mêlent la Trinité avec Allah. Parce que c'est la formation, ils ont un background chrétien qui sort. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils mélangent les choses. Donc, c'est un peu dangereux pour cela. Il faut être très clair pour ne pas glisser sans s'en apercevoir dans le syncrétisme ou bien dans le relativisme. C'est l'autre danger, c'est celui-là. Parce que on a tellement envie d'aller vers l'autre, à la rencontre de l'autre, qu'on aboutit à dire, bon, finalement, Dieu est le même, c'est les différentes présentations qui nous éparent. Mais à part cela, comme vous le voyez de la prédication du pape François et de son témoignage, c'est vraiment l'amitié qui compte, l'amitié qui s'établit. Moi, j'ai appris du cardinal Thoran que le dialogue n'est pas entre les religions. Le dialogue est entre les croyants. Donc c'est toujours une approche interpersonnelle. C'est de cela qu'on part. Et le pape François, il dit d'abord l'amitié. Quand on a établi des ponts, alors tout le reste passe. Et de mon expérience, j'ai même appris qu'il ne faut pas trop exagérer l'importance de la religion. C'est bizarre qu'un prêtre dise cela. Mais c'est comme ça. Parce que si on l'exagère, on va finir par souligner ce qui nous divise et non pas ce qui nous unit. Le fait qui nous unit, c'est les valeurs humaines communes. C'est le fait d'être, comme le dit pape François, dans ce monde, non, notre maison commune. Donc, surtout l'engagement pour la sauvegarde de l'environnement, aujourd'hui, c'est un défi qui, au niveau interreligieux, peut vraiment porter des fruits. Là aussi, l'engagement pour les Millennium Goals. Au mois de mars, il y aura une rencontre qui a été organisée par le cardinal Turkson, le dicastère pour le développement humain, qui vient, donc il vous dira lui-même, je le préviens. On a cette rencontre, on a invité tous les chefs religieux à Rome pour voir à quel point on est. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on soupçonne qu'il y a des responsables religieux qui ne savent même pas ce que sont les Millennium Goals.
Les quoi?
Les quoi?
C'est quoi?
L'objectif du millénaire de fixer par le
voilà. Donc c'est cette lutte pour. Voilà, développement, etc. Et juste pour vous dire une idée, sûrement la frontière du dialogue avec l'islam, c'est celle qui rend les fruits les plus remarquables. Vous savez que on avait bien commencé, il y a une fresque, une peinture liée à l'entrée.
Ah, magnifique.
Qui était visionnaire. Ça a été fait par un artiste polonaise qui a montré là le pape Paul VI avec le Dalai Lama et les autres chefs religieux. Cette rencontre-là n'a eu lieu qu'il y a 3 ans avec pape François dans la place Saint-Pierre. Là, c'était une vision. Il a fallu 50 ans, mais ça s'est réalisé. Vous savez qu'après le discours de Ratisbonne du pape Benoît XVI, il y avait eu un moment de stase. On dit que le dialogue avait été congélé. Je parle du dialogue avec Al-Azhar, que les musulmans sunnites considèrent un peu comme leur Vatican, leur centre d'orientation, n'est-ce pas ? En effet, il y a aussi le printemps arabe qui s'y passait, c'était un moment délicat, très délicat. Alors, vous voyez cette sorte de diplomatie sur le terrain du cardinal Thuram, qui avant était ministre pour les relations avec les États, donc ministre des Affaires étrangères. Donc, on s'est parlé d'une manière très discrète, on a trouvé la manière de recommencer, et finalement, le grand imam de El-Azhar est venu voir le pape François à Rome, puis le pape lui a rendu visite là-bas, et tout a recommencé. Et c'est important cela, parce que c'est l'union qui fait la force. Et la dernière étape du cardinal Thuram, qui était déjà très malade, c'était le mois d'avril dernier, trois mois avant sa mort. Il est parti en Arabie Saoudite. Il a été reçu pendant 10 jours par le roi. Ils ont parlé, ils ont demandé des conseils. Donc, vous savez, il y a tout un travail sur le terrain qu'on ne lirait jamais à la une des journaux. Il y a un monde qui est en train de changer. Ils se demandent eux-mêmes si cette interprétation traditionnelle du Coran peut durer, ou bien s'il faut s'ouvrir à l'exégèse, à la méthode historique critique. Tout cela se passe, c'est sûr, ils ne peuvent pas le dire, parce que vous vous rendez compte, dans une société qui est très... pas fermée, une société qui est passive, si vous voulez. Alors, il faut y aller vraiment doucement. Parce que l'exemple de Ratisbonne nous enseigne. Mais de notre expérience, on peut dire que tous demandent la même chose, la paix. Et donc, l'engagement potentiel des croyants pour la paix est énorme. Et j'apprécie beaucoup ce que vous faites là. C'est une chose très intelligente. Parce que avoir une formation sur la religion pour les élus, pour les diplomates, pour tous ceux qui ont une tâche politique ou publique est très important pour comprendre l'autre, pour ne pas les juger. J'ai vu que aussi votre but c'est de parler de la laïcité, parce que même en France il n'y a pas qu'une version de la laïcité, on l'entend d'une manière différente parce que les têtes sont différentes. Et alors, c'est un chemin. Le résultat qu'on veut obtenir, c'est le même. C'est le respect. C'est une vie heureuse pour tout le monde. Alors, en Italie, tous et toutes peuvent porter leur signe religieux. Moi, je peux porter mon col romain. Les femmes musulmanes peuvent aller avec leur voile. C'est sûr pour les zones de sécurité. Le burqa peut poser des problèmes. Mais alors, notre position, c'est que tant que des coutumes religieuses ou personnelles ne vont pas contre l'ordre public, ils sont acceptés. Tant qu'ils ne font pas un affrontement à la dignité de l'homme, ça va. On les admet. Votre critère officiel en France, c'est qu'on interdit tout. Et parfois, il peut y avoir des
sécurités.
Ou presque tout.
Ça dépend de la laïcité. C'est pas n'importe quoi, mais c'est impossible. On a peut-être
de tout. Oui. Voilà. À part le visage et les
couleurs. Et donc, si je pouvais parler au nom de notre feu cardinal, je vous dirais que ce qui est primaire, c'est le sens commun. Ce qu'on appelle le buon senso. Donc, Le bon sens, oui, pour voir les choses, sans de rigidité. Voilà. Je m'arrête là parce que j'ai des châteaux à parler.
Éventuellement, les grosses difficultés qu'il y a, après, quelles sont les plus grandes, enfin, voilà.
Oui, je vous ai dit du problème que, de ce gel qu'il y a eu avec l'ASA, qui a été heureusement dépassé. Les difficultés qu'on trouve, ou la détresse qu'on éprouve, c'est de voir qu'il y a certaines confessions religieuses qui viennent dialoguer avec le Saint-Siège. Mais prenez les délégations de l'Iran, parce que inutile de cacher les choses. Mais chez eux, les chrétiens ne sont pas respectés. Alors, que faut-il faire? Il faut arrêter le dialogue? Bien sûr que non. Mais il faut essayer de parler à nos partenaires pour leur dire, mais voyez, essayez de faire quelque chose pour les chrétiens chez vous. En Arabie Saoudite, vous savez, notre secrétaire, Monsieur Ayuso, il est observateur du Saint-Siège au Kaïchit, qui est le centre du dialogue de Vienne, qui a été voulu par l'Arabie Saoudite. Ils ont dépensé, ils continuent de dépenser un argent énorme pour avoir ce centre. Pourquoi le Saint-Siège y a adhéré depuis le début? On est observateur fondateur. On a trouvé cette formule un peu bizarre. Ça va. Parce que c'est la seule chance qu'on a pour que eux aussi, à un certain moment, ils se rendent compte de la contradiction qu'il y a entre pratiquer le dialogue interreligieux à l'extérieur et ne pas respecter les droits de religion chez eux. Quelque chose va claquer un jour. Donc c'est sur cette frontière. On a les nonces apostoliques qui sont les représentants, les ambassadeurs du pape, du Saint-Siège, un peu partout dans le monde. Ils nous signalent lorsqu'il y a des abus au niveau de la liberté religieuse, lorsqu'il y a des violations contre les chrétiens, contre les églises. Alors, eux-mêmes, ce sont les premiers qui gueulent, disent « Ce n'est pas possible, ils viennent chez vous. »
Pas de violation, il n'y a pas d'église.
Vous allez dans l'université de Caen, et puis, le gouvernement ne donne pas d'attention aux églises. Donc, c'est dans ce domaine-là. On n'arrive pas à faire tout ce qu'il faudrait faire pour que les églises chrétiennes soient respectées dans certains pays. L'Arabie Saoudite, mais même la Turquie. La Turquie, c'est terrible. L'Église catholique n'a aucune propriété. Tout a été pris. Et on vit là. Vous savez qu'on a eu un prêtre, un évêque qui a été tué. Et pour ne pas parler, bien sûr, de ce qui s'est passé dans l'Afrique du Nord, vous savez, les martyrs qui gris. Même Monseigneur Claveri, évêque de Rome.
Saint martyr, maintenant.
Donc, c'est à ce niveau-là que tout est encore à inventer. On peut vous offrir de l'eau, c'est un peu beau, hein.
Monseigneur, bonjour, Alexis Léviard. Je suis fonctionnaire, je travaille au ministère de l'Outre-mer en France. Oui, j'avais une question à vous poser. Vous disiez que vous avez des relations avec certains États ou avec certains représentants religieux des autres pays. Qui prend l'initiative? C'est vous ou certains autres États? Alors je pense à ceux avec lesquels vous avez des difficultés, peut-être pas de dialogue, mais en tout cas de mise en œuvre ou de cohérence du dialogue avec la réalité que leurs concitoyens ou les habitants de ces pays. C'est vous qui prenez l'initiative d'aller vers eux, vous donnez l'exemple de la Turquie et de l'Iran, ou est-ce que c'est eux qui sont intéressés par cette initiative de dialogue que vous avez ici à Sécuritari?
Chaque contexte est différent. Il n'y a pas une règle. Pour le cas de l'Iran, on a les jésuites qui travaillent à l'université de Caen. Donc ce sont eux qui sont engagés dans le dialogue au niveau local. Et bien sûr, ils ont impliqué le conseil pontifical dans ce dialogue. Et c'est à ce moment-là que ce dialogue progressait à haut niveau, que le nonce apostolique nous a prévenus. Et nous a dit, mais vous rendez compte, eux, ils vont dire qu'ils ont cette relation fantastique avec le Saint-Siège. Donc, bien sûr, au niveau mondial, ça donne une image d'un pays. Mais à l'intérieur, ils ne respectent pas les droits des chrétiens sur place. Alors, à un certain moment, on a dû agir plus calmement. En Turquie, il n'y a pas de relation officielle avec des centres de dialogue interreligieux. Donc, c'est une chose à inventer et c'est compliqué. Notre secrétaire, il est allé à la Diyanette à Ankara rencontrer le ministre des Affaires religieuses. On n'aboutit à rien, malheureusement. Vous voyez, c'est dur. Mais il faut tout le temps quand même négocier, avoir confiance, avoir du respect, essayer d'entretenir les relations. Il faut avoir confiance dans l'homme. Le mot du cardinal Thuron était « je crois dans l'homme, je crois à l'homme ». Notre confiance n'est pas qu'en Dieu, c'est aussi dans l'homme. Si tu ne crois pas que l'homme est capable de changer, de s'ouvrir au dialogue, alors tu as déjà failli ta mission. Vous pouvez parler d'un micro, hein? Comme ça tout le monde nous écoute.
Je vais parler fort. Je voulais vous poser deux questions. La première, je m'appelle Domitille Arrivet et je suis journaliste en France.
Oui.
Quelle langue vous parlez entre vous au sein du secrétariat ici à Rome? Et une autre question, est-ce que de façon rationnelle, il y a des outils de mesure du progrès du dialogue interreligieux? C'est une question un peu utilitariste, mais est-ce qu'on peut quantifier l'évolution du dialogue interreligieux depuis 1965?
La première question, c'est les langues de travail ici, ce sont italien, bien sûr, puis français, anglais, espagnol et aussi l'arabe. Parce qu'on a, grâce à Dieu, deux, soit le secrétaire, soit Monseigneur Khaled Akashi, qui est de Jérusalem, donc qui parle bien, qui maîtrise bien l'arabe. Et pour la deuxième question, après 50 ans, on s'est rendu compte des produits, des fruits de ce dialogue. Il y a même un film qu'on a pu sortir en plusieurs parties. On est encore en train de le rédiger. On a fait des interviews aux différents. D'abord à ceux qui étaient témoins du Conseil, ceux qui étaient encore vivants. Et puis on a vu comment, dans l'après-concile, tout cela s'est développé. Si vous parlez d'outils comme ceux qu'on a en économie, on n'en a pas. Mais les documents qu'on a sortis nous disent les progrès qu'on a fait. Ce dicaster a fait paraître un document sur la relation entre le dialogue et la mission. C'était en 81, donc à peu près à 25 ans de notre état. Dialogue et mission. Parce que les missionnaires étaient allés en crise. Donc il y a le dialogue. Alors la conversion, vous voyez, le langage était encore un peu daté. Et évidemment, quelle a été la réponse? Que nous, en tant que catholiques, on ne fait plus de prosélytisme. Grâce à Dieu, on s'est libéré. Le dialogue, ce n'est pas pour la conversion de l'autre. Le dialogue, c'est pour la paix, pour le développement, pour aboutir à des buts communs. Quand l'autre écoute cela, il se sent lui aussi libre de s'exprimer, d'être lui-même, de parler. Donc c'est l'un des fruits les plus importants de notre état. Et on espère que les autres aussi, parce que si tu as affaire avec d'autres qui sont prosélytistes, alors la situation ne va jamais donner de résultats. Et puis, donc ça c'était dialogue et mission. L'autre, c'est dialogue et annonce, dialogue et proclamation, selon les différentes. Vous pouvez les décharger du site internet de notre dicastère. Donc, quelle est la relation entre le dialogue et l'annonce de l'Évangile? C'était encore l'époque du pape Jean-Paul II. Donc, dans son témoignage, vous vous rendez compte, il est parti au Maroc. Il a parlé à 50 000 jeunes musulmans d'aller dans le stade de football de Casablanca. Ils l'ont écouté. Alors, on ne parle pas pour obtenir la conversion des autres. On annonce l'Évangile parce qu'on est chrétien. Moi, je dois parler de moi-même. En tant que chrétien, l'Évangile est mon identité. Donc, j'annonce Jésus-Christ. Mais je ne prétends pas que toi, tu te convertes. C'est ma richesse, je te la donne. Toi, tu vas me parler de Mahomet, du Bouddha, ou de tes valeurs spirituelles. Et l'un des fruits moins connus du dialogue interreligieux, c'est ce qu'on appelle le DIM, dialogue interreligieux monastique. Ça donne des fruits fous. Et le pape Paul VI avait commencé cela encore avant Nostra Aetate. Il avait chargé le supérieur des bénédictins, des moines bénédictins, supérieur général, d'établir des relations avec les bouddhistes, les moines bouddhistes au Japon. Eh bien, ces relations ont commencé tout discrètement, ont fait découvrir qu'ils ont des valeurs spirituelles communes et noires. Et maintenant ça existe, ça s'appelle DIMMID, le site dimmid.org, D-I-M-M-I-D, Dialogue Interreligieux Monastique, Monastique Interreligious Dialogue, vous voyez pourquoi. Et ce sont hommes et femmes, donc moines et moniales, surtout au niveau du bouddhisme, qui se retrouvent, qui abordent des sujets. Parfois ce sont eux qui viennent ici à Rome, parfois c'est nous qui partons. Donc au Japon, aux Philippines, à Hong Kong, en Birmanie, en Malaisie, un peu partout. C'est Monseigneur Indonil qui est chargé de tout ça. Et donc je peux vous raconter ça, mais on n'a pas de outil économétrique, voyez, pour pouvoir le rendre.
Emmanuel,
vous avez
une question?
Oui, bonsoir. Je suis fonctionnaire en ministère de l'Intérieur. Je m'occupe des dialogues entre les États membres de l'Union
européenne. C'est bien encore que le garde à Caroline.
C'est pas au moment,
mais la question que c'est est-ce que votre prestataire s'occupe également du dialogue entre églises chrétiennes? Nous avons été, nous sommes allés à Jérusalem, et nous avons vu la difficulté, par exemple, de tenir le Saint-Sépulcre entre les différentes églises d'Orient, l'église orthodoxe, les églises orthodoxes. Est-ce que ça fait partie de votre question ou est-ce que c'est une autre...
C'est la porte à côté.
D'accord.
Vraiment, je ne rigole pas. Ce même quatrième étage, il y a le dicastère pour l'unité des chrétiens, qui est chargé des relations entre les églises, donc dialogue écuménique. Au niveau national, pour économiser les moyens, il y a normalement un seul bureau pour le dialogue écuménique et interreligieux. Le Saint-Siège, qui a plus de moyens, peut se permettre d'avoir deux cardinaux, deux bureaux, qui distingue, donc travaille pour l'unité entre les églises, travaille pour le dialogue interreligieux. Et ce qui est important, et merci pour votre question parce que je me suis rappelé ce que je voulais dire, vous savez, à Genève, il y a le conseil
des églises.
Et eux aussi, ils ont une section pour le dialogue interreligieux. Parce que lorsqu'un musulman me voit, il me dit, toi tu es catholique, mais où sont les évangéliques, les protestants, les anglicans, les orthodoxes? Vous êtes divisés entre vous. Comment prétendez dialoguer avec vous? Donc, à Genève, les églises chrétiennes ont une section pour le dialogue interreligieux. on se présente d'une manière unie. Et des initiatives pareilles surgissent un peu partout dans le monde. De Monseigneur Akaché, et depuis hier, moi je vais le rejoindre demain, à Rabat, au Maroc, où il existe un institut œcuménique de théologie pour le dialogue interreligieux. Tout jeune, hein, ils sont partis en 2012, ou en 2013. En 2012, l'église évangélique, l'église catholique, donc la pasteur et l'évêque de Rabat, ils ont créé cette institution. Et ça va très bien. Alors, demain, pendant quelques jours, on va dialoguer avec eux pour voir si on peut leur donner quelques conseils pour améliorer leur travail. Mais je vois qu'ils font déjà un travail excellent. Donc, la manière pour avoir des résultats, c'est de se présenter unis. Jérusalem est un cas atypique. Parce que l'histoire du Saint-Sépulcre est vraiment extraordinaire. Vous savez que les églises européennes étaient trop engagées à faire la guerre pendant le 19e siècle. Et donc, là-bas, ce ne sont restés que les Coptes, les Grecs, et après les Russes qui ont donné de l'argent. Donc ils se sont appropriés de tout. Et une fois qu'ils se sentent propriétaires, ils agissent comme tels. Si vous allez au Saint-Sépulcre entre 16h et 18h, il y a toute une série de processions interconnectées. Vous n'arriverez jamais à rentrer dans le Saint-Sépulcre. Mais moi, j'ai eu la chance d'étudier un an là-bas. Et derrière l'édicule officiel, il y a un petit trou gardé par les Coptes. Et là, il y a le dernier morceau du sépulcre constantinien, qui n'a pas été détruit par le calife Hakim au 11e siècle. Donc c'est bizarre. Les plus pauvres, ils gardent le dernier morceau de ce qui n'était pas détruit. Et tout le monde ne le sait pas. Il faut une quai qui peut durer jusqu'à 5 ou 6 heures pour aller se prostrer devant une banque de marbre qui a été mise là-bas au 19e siècle.
François, oui, vous voulez justement un petit peu évoquer les sous une autre forme. Alors oui, François Lobby, donc je suis fonctionnaire au ministère de l'Intérieur. Vous l'avez évoqué sous une autre forme. En fait, le dialogue que vous concevez, puisque vous nous avez expliqué que le dialogue se faisait quand même à la base, ce dialogue que vous confusez n'est-il pas gêné par le fait que vous êtes dans une situation asymétrique? Je m'explique. L'Église catholique est bien organisée, il y a un pape, il y a des collaborateurs du pape, nous avons la chance de rencontrer. Et en face de nous, nous avons un certain nombre de religions qui n'ont pas cette autorité, qui n'ont pas cette structure pyramidale que l'on peut critiquer par ailleurs, mais qui a quand même le mérite d'exister. Donc comment vous arrivez à surmonter cette difficulté?
Je viens de le dire, en créant plusieurs plateformes de dialogue, au niveau régional, au niveau national, au niveau international. C'est-à-dire, je vous ai fait donner l'exemple de l'islam. Donc, tu as le dialogue avec El Azhar, et bien sûr, là, les sunnites se sont représentés. Mais pour les chiites, alors, on est obligé de se déplacer et de soigner les relations avec les musulmans qui sont en Irak ou en Iran. Et on avait même des tables en Libye, en Syrie, mais dans cette situation, ça devient un peu compliqué. Donc, au fur et à mesure que la paix progresse, on peut recommencer le dialogue. Donc, on prend les autres tels qu'ils sont, les accepte, on n'essaie pas de les changer. Et on s'adapte à la manière de vivre. Il faut être souple. Voilà.
Clément et Jean-Marie.
Oui, bonjour, je suis Mondolara Palmer, je suis fonctionnaire à l'Assemblée nationale. Pour rejeter la question qui m'a été posée, vous évoquez dans votre propos, j'en prends le mot secte à un moment. Comment est-ce que vous faites la distinction entre un mouvement sectaire, donc fermé, intransigeant, pas ouvert, et ce que vous pouvez considérer comme une religion avec laquelle dialoguer? Et à partir de quel moment est-ce qu'on considère un groupe comme étant une religion et donc susceptible de créer un dialogue interreligieux?
Oui, vraiment la question est importante. il y a des situations qui ne sont pas du tout claires. Parce que tu peux avoir, par exemple, si on parle des chrétiens évangéliques, non ? L'église évangélique a tout respect, mais à l'intérieur de l'église évangélique, tu peux avoir des églises qui sont sectaires. Il y a 3 jours, on a reçu la visite du secrétaire du Global Christian Forum, qui est un pasteur évangélique originaire du Ghana, qui habite maintenant aux États-Unis. Il a été élu pourquoi ? Parce que à Genève, au Conseil des Églises, ils se sont rendus compte que les églises évangéliques et pentecostales étaient marginalisées et ne rentraient pas dans le dialogue. Donc, on a créé ce forum pour essayer de les engager, de les faire sortir de cette marginalité et de les remettre au centre. Et bien sûr, de les aider à voir que le fait de rester enfermé les réduit au niveau de secte. Donc, il y a un travail qui se fait. Mais c'est sûr que tu ne peux pas dialoguer avec tout le monde. Moi, j'ai travaillé là depuis 2 semaines et le cardinal Torrent a reçu la visite du chef des Mormons. J'ai admiré l'aplomb du cardinal. Ce monsieur m'avait demandé conseil parce qu'à l'époque, il avait le projet de faire un grand centre de culte au niveau de Rome, ici à Rome. Et donc, il est venu demander conseil. Le cardinal, vraiment, avec grande élégance, lui a donné toutes les informations qu'il pouvait, en disant, essayez tout simplement de ne pas faire des choses qui soient trop... qui marquent, qui frappent à l'œil trop. Essayez de rester dans le contexte. Mais comment peut le cardinal dialoguer avec
toi ? On pas de concurrent.
Eh bien, il réussit même à faire cela.
Tu montes ta supérette.
Si tu as du respect, l'autre te respecte aussi. Mais si tu as des préjugés vers l'autre, tu n'arriveras jamais à dialoguer. L'identité personnelle. Moi, je dois être sûr de ce que je suis, qui je suis. Mon identité au niveau personnel, au niveau religieux. Et l'attitude de respect et de franchise, de sincérité vers l'autre. C'est ce que le pape François demande tout le temps. C'est comme ça qu'on peut créer un pont. Si cela existe des deux côtés, on peut dialoguer. Mais s'il y a aussi une intention utilitariste, je veux me servir de l'autre, là, je parle à beaucoup de fonctionnaires, d'hommes politiques. Le dialogue ne peut pas servir à cela, pour avoir une autre fin. Le dialogue, c'est pour la paix, pour aboutir à des objectifs communs. Mais je ne peux pas arriver à convaincre l'autre que mon projet est meilleur que le sien. Et toute fin utilitariste va produire des résultats négatifs. Parce qu'il y a ce danger. Là, on a beaucoup de demandes d'intervention au dialogue interreligieux, surtout de corps politiques. Alors, il faut bien discerner pourquoi ils nous demandent d'intervenir. Parfois, ils demandent de parler à la télévision. Alors, c'est tel monsieur, c'est le tel ou tel élu qui veut se faire de la publicité. Bien sûr, la photo avec le pape, ça paye toujours. Et vous voyez, ce n'est pas que des catholiques ou des chrétiens, hein. Ce sont aussi ceux des autres religions qui sont assez malins pour se faire accréditer.
Je m'appelle Jean-Marie Buru, je suis avocat à Paris. Je comprends bien, je pense que nous comprenons tous ce que vous nous dites du dialogue interreligieux, mais il est nécessaire. Mais pas de prosélytisme, pas de conversion, un but quand même, la concorde, la paix, le respect de l'autre.
La prévention du radicalisme.
Oui, et l'abolition du radicalisme, la connaissance de l'autre pour éviter, c'est l'ignorance qui est le fondement de la méconnaissance, de la haine. Mais en définitive, ce dialogue n'est pas interreligieux au sens propre du terme, puisqu'il n'est pas question de toucher notamment à la question dogmatique.
C'est plutôt interculturel. C'est ça.
Voilà, et donc c'est une vision religieuse des droits de l'homme, en quelque sorte. Mais ça n'est pas religieux au sens technique, j'allais dire, du terme.
Merci pour la question. Je vais vous répondre. Parce que moi, j'aime pas la... Je vais te faire une conférence. Vous avez dormi après 10 minutes. Mais par les questions, on aborde tous les mêmes sujets d'une manière plus intelligente. Donc, nous, on distingue plusieurs niveaux du dialogue. Le cardinal Thorin faisait rire tout le monde lorsqu'il disait que le dialogue commence au kindergarten. Parce que lorsque les mamans portent les enfants, et se doivent parler des questions de la vie de tous les jours. C'est ce qu'on appelle le dialogue de la vie. Et des gens qui vivent dans un même quartier, dans une même périphérie, ils ont les mêmes problèmes. Vous voyez, comme vous le dites, ce qui est religieuse, c'est la motivation qui me pousse à aller vers l'autre. Parce que toutes les religions ont une dimension qui nous pousse vers la paix, vers le bien commun, vers l'amour de l'autre. C'est à partir de cela qu'on a la motivation pour se mettre ensemble, pour essayer de résoudre certains problèmes qui sont à cœur à tous et à toutes. Donc c'est le dialogue de la vie. Puis, tu avances jusqu'à avoir le dialogue religieux lui-même. Donc on peut commencer à se connaître. Je vais présenter les valeurs de ma religion, tu vas présenter les tiennes. On commence à se connaître, à s'enrichir, toujours dans ce climat de respect réciproque, de ne pas agresser l'autre. Comme il arrive quand tu parles avec quelqu'un qui est d'une secte, les témoins de Jéhovah, 8 sur 10 sont très agressifs. Je n'ai trouvé que quelques-uns qui sont vraiment bien. Mais sinon, les autres, ils essaient vraiment de casser, de profiter de l'ignorance de l'autre. L'ignorance au niveau religieux pour te convaincre que moi, je suis le prophète et toi, tu es nul. Donc, au niveau de... Puis à le niveau spirituel, je vous disais le dialogue monastique, et à la fin, tu as le dialogue théologique. C'est vraiment l'aboutissement. Ce n'est pas le premier niveau. Le niveau auquel tout le monde, la majorité des personnes s'arrêtent, c'est le dialogue de la vie. Et ce qui est fondamental, parce que ça nous sert à résoudre les problèmes qu'on vient de mentionner. La radicalisation, pourquoi ça existe? Parce que je ne connais pas l'autre, j'ai peur de l'autre. Et tous ces discours de haine. Il y a aussi des questions fondamentales que... vous qui travaillez au niveau public et politique, c'est la pauvreté, vous voyez. Et au Nigeria, tout ce qu'on voit de Boko Haram, j'ai bien étudié le phénomène, c'était un mouvement qui demandait un peu plus de bien-être pour les pauvres. Un gouvernement qui est très corrompu. Il n'était pas violent. À un certain moment, un chef violent est arrivé et ils ont commencé. À l'intérieur même de Boko Haram, ils ont essayé de l'arrêter, n'ont pas réussi. Donc, la faction violente a pris le dessus. Et on voit les gilets jaunes en France, c'est un peu la même dynamique. Donc, il faut veiller tout le temps à cela. Qu'au niveau d'une communauté, la violence n'est pas le principal de ce
sujet. Oui, Pierre Versin, je travaille chez Delphine dans le Bas. J'ai une question qui a pris aussi dans la continuité, dont on avait déjà en partie répondu, mais quand même, on comprend bien qu'il n'y a pas de prosélytisme, mais pas de, je comprends aussi qu'il n'y a pas de conversion ou de changement fondamental entre les personnes qui discutent entre elles.
Changement, il y en a. Changement au niveau interpersonnel, parce que je m'enrichis. Et je me sens plus fort dans mes valeurs. Parce que c'est paradoxal, lorsque l'autre parle, j'arrive à connaître ma religion, mon identité. Parce que chacun est toujours un miroir pour l'autre. Donc je me reflète dans l'autre, je connais mieux mes valeurs, et je dis, mais tiens, ce qu'il dit, c'est ce que je pense aussi. Pourquoi jusque-là j'étais si bête, je n'ai pas mis en valeur ces trésors que je possède. Vous voyez, la conversion peut arriver dans ce cas, si c'est Dieu lui-même qui le veut, si c'est l'Esprit Saint qui m'apporte à changer. Mais c'est moi qui le demande, c'est pas l'autre qui dit « veux-tu te convertir ?» Voilà.
Très bien. Donc, un des premiers fruits que j'entends, c'est le fait d'une réaffirmation ou un test intérieur de ses propres valeurs.
Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres fruits concrets que vous avez pu observer où vous vous êtes dit, ce dialogue a permis telle chose, ou tel changement dans un pays, ou tel changement dans une société, ou dans une... des fruits concrets de cette paix que vous recherchez par ce dialogue.
Surtout au niveau du développement et de la prévention de la guerre. J'étais en Côte d'Ivoire et il y a un diocèse écarté qui s'appelle Korogo. Il y a un évêque là-bas, je crois maintenant qu'il sera déjà à la retraite. Il a réussi à éviter que la guerre arrive à la partie nord du pays. Parce que lui, évêque, l'imam, le pasteur, le chef de la religion traditionnelle, les quatre, ils sont partis village par village, dire écoutez, il y a une tentative d'instrumentalisation, ne cédez pas. Restez calme. Ne prenez pas les armes. Donc, comme je vous l'ai dit, ça c'est l'un des fruits qu'on peut obtenir partout. Et je vous parle de ce que j'ai vu et ce que j'ai écouté moi-même. Mais un peu partout dans le monde, ça se passe comme ça. Pour l'environnement, il y a des campagnes interreligieuses pour le plastique. Les gens se lèvent, ils vont ramasser le plastique sur les plages. Et vous verrez, après ce congrès du mois de mars du cardinal Turkson, qu'il y aura encore des fruits. Parce que les gens vont découvrir qu'ensemble, on peut lutter contre la pauvreté. Et oui, sinon, au niveau religieux, même en Inde, il y a des chefs religieux qui font beaucoup pour leur communauté, mais ça a tout de suite un reflet interreligieux. Parce que les autres voient l'initiative, ils imitent. Et donc, il y a finalement des choses qui s'élargissent, surtout pour ce qui concerne les femmes, n'est-ce pas ? Le rôle des femmes. À ce travail, à ce niveau-là, c'est très important. Ici, l'un des conseils qu'on donne, c'est de créer au niveau local des petits groupes de dialogue entre femmes. En France, vous en avez plein. Marseille a donne des fruits extraordinaires, cela. Des petits groupes qui ont toutes sortes de dénominations. Il est désormais impossible de les compter. Ils sont très nombreux. Des associations, femmes chrétiennes, musulmanes, et d'autres, la majorité c'est ça, chrétiens et musulmans, se retrouvent. Et ça arrive vraiment, peut-être, à éviter la radicalisation de leurs enfants, mais aussi à lutter pour qu'il y ait certains services dans leur quartier. Et ça, c'est le travail fondamental, non ? C'est au niveau local, non ? C'est, les Anglais diraient grassroots level. C'est surtout là le défi, apprendre à s'aimer, à se respecter. Au niveau de la vie de chaque jour. Puis au niveau international et mondial, c'est sûr, il y a tous ces forums qui existent, toutes ces associations. Et là, il faut veiller que le politique ne prenne pas le dessus. Excusez-moi si je parle trop clair. C'est notre style ici.
C'est vrai, je peux en témoigner pour venir vous comprendre. fait depuis 3-4 ans. C'est très fort. Dernière question.
Oui, moi j'ai bien noté votre souci de... Sylvie Conseveni, je suis chargée de pastoral dans une des écoles privées. J'ai bien noté votre souci de rester très ancré dans le local, le micro-local, de faire attention que ce qui se génère au niveau local puisse monter par capillarité un petit peu au-dessus. Il y a une question que je pose quand même, c'est il y a des sujets nouveaux qui sont finalement des sujets qu'on appréhende encore mal aujourd'hui. Je pense à la question de transhumanisme, par exemple, et qui sont des questions qui se poseront à court terme, certainement, à toutes les grandes religions. J'ai vu dans le film du pape, un homme de parole, à quel point il était soucieux de parler que les religions puissent parler entre eux en tant que frères. Il a repris cette belle expression de fraternité d'Abraham. Et moi, je voulais savoir... Si vous repreniez ces sujets qui sont encore très abstraits pour nous, ces questions du futur, et qui vont mettre en jeu toutes les valeurs de nos religions, nos valeurs communes de religion que vous évoquiez tout à l'heure, est-ce qu'il y a des cellules de veille? Est-ce qu'il y a, est-ce que vous participez à ce travail de recherche qui doit encore s'élaborer avant de pouvoir questionner les religions? Voilà, c'est la question posée.
Si je comprends bien, c'est le niveau de ce que nous appelons la bioéthique dont vous parlez.
Oui, mais vous allez me renvoyer sur un autre dicaster. Vous allez me renvoyer.
Le progrès de l'évolution
technique, le rapport à la technologie. Mais
appliqué à l'homme.
Appliqué à l'homme, c'est ça.
Ah, voilà.
Mais dans un dialogue interreligieux, puisque ça nous.
Oui. Voilà. Il y a certaines plateformes.
Ça, c'est la bioéthique.
Dans le dialogue avec l'islam, mais même avec bouddhistes, hindouistes, des congrès qui se sont faits au niveau régional, surtout à Nancy et. Surtout à Nancy, je crois, et au Proche-Orient, où on abordait des sujets, mais sujet par sujet. Il n'y a pas encore des positions globales, mais la confrontation a déjà commencé. Faites attention, le 1er janvier de chaque année, le pape donne un message pour la paix, pour la journée mondiale de la paix. Et ce message est systématiquement repris dans les messages de congratulation qu'on envoie aux croyants des autres religions, par exemple pour le mois du Ramadan, ou bien pour Vesak, pour les hindouistes, pour les bouddhistes, il y a d'autres fêtes. Et donc là, on se retrouve. Parfois, de ce message de la paix, il y a des congrès qui sortent, où on aborde tel ou tel sujet que le pape avait à peine deviné. Vous voyez? Mais c'est tout un mouvement qui doit grandir, bien sûr, parce que c'est des nouvelles frontières, tout cela. Et on le fait au niveau interdicastérial. C'est-à-dire, si c'est l'Académie pour la vie que nous avons ici, l'Académie des sciences, mais ils ne négligent pas de nous consulter. Parce que eux, ils peuvent être spécialistes sur un sujet, mais ils ne savent pas à quel partenaire ils vont s'adresser. Donc, on travaille ensemble pour qu'ils puissent avoir des partenaires fiables dans les autres religion. C'est la même chose qu'on fait avec le dicaster pour le développement. On a fait des réunions pour trouver qui, parmi nos partenaires, pouvait être fiable pour aborder ces sujets des millénaires, c'est-à-dire du développement millénaire. Voilà. Donc, on reste encore un peu vague, mais c'est sûr qu'au fur et à mesure que les objectifs seront clairs, on va sûrement aborder tout cela. Dans cette même finalité d'enrichissement réciproque.
Oui, et puis sur le fait d'être plus fort ensemble pour trouver les défenses à Dieu.
Merci. Je crois qu'on doit partir.
Oui, on va partir.
On va applaudir.
Écoutez, on vous remercie infiniment.